Merci de votre présence ce soir. Je me réjouis avec mon épouse d'être parmi vous en Suisse. Ce n'est pas souvent que nous voyageons en Suisse, dans le grand sud de l'Europe, parce que nous sommes pas des ch'tis, mais les gens du Nord. Et nous sommes très contents de pouvoir voir votre paysage qui est merveilleux et surtout de passer du temps avec les frères et sœurs en Christ dans cette partie de l'Europe qui est tellement empreinte de, est-ce que je peux dire, de tradition protestante, disons. Quand on pense à cette partie de la Suisse, on pense à la Réforme et à toutes les bonnes choses qui en étaient la suite et dont nous avons été largement privés au nord de l'Europe, surtout au Luxembourg. Je ne sais pas si vous avez déjà passé au Luxembourg, peut-être pour transférer une certaine somme d'argent des banques suisses en banque luxembourgeoise. Le Luxembourg est connu ou mal connu pour être un centre financier, mais c'est surtout un pays très pauvre du point de vue spirituel, et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a guidés en 76, 1976, à aller au Luxembourg pour travailler à l'implantation de plusieurs églises. Pendant plusieurs années, nous avons travaillé essentiellement en langue française. Depuis 1986, on s'occupe d'une communauté plutôt anglophone, internationale, qui nous a permis de connaître des gens du monde entier. Et en fait, à tout moment, il y a entre 25 et 30 nationalités différentes dans ce groupe multilingue, mais dont on emploie, pour lequel on emploie l'anglais comme langue véhiculaire. Pour le moment, nous travaillons de façon très concentrée sur la traduction de la Bible en luxembourgeois, une chose qui n'a jamais été faite. Et en voici la première partie, l'Évangile selon Jean. Le luxembourgeois est une langue européenne qui est parlée et de plus en plus lue par à peu près une demi-million de gens autour du monde, principalement évidemment au Luxembourg, dans le nord-est de la France, une petite partie de l'Allemagne et aussi une partie de la Belgique. Et donc on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à cela. Donc si vous priez pour Luxembourg, veuillez prier pour ce projet de traduction de la Bible. Je me rends compte que passer 50 minutes autour d'un thème aussi vaste que les plans de Dieu pour l'homme inscrits dans le temps, c'est presque une prétention. Mais on m'a quand même demandé de tenter la chose. Alors j'espère que vous êtes courageux parce que je vais vous inonder ce soir. C'est inévitable. Je ne sais pas comment faire autrement. Les frères bourgeois, enfin le frère bourgeois, Jean-Jacques, j'ai compris qu'il y en a plusieurs, a eu la gentillesse de photocopier la présentation, donc ce qui vous permettra de lire peut-être que ce qui sera difficile à voir sur l'écran. Je vais vous demander de lire quelques textes dans la Bible. D'abord, dans la Genèse, au chapitre 1er, le verset 28. Genèse 1, 28, la finalité de la création de l'homme. Le texte nous dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset biblique controversé, surtout à l'heure actuelle, lorsque, du point de vue politique, les Verts veulent absolument insister sur une écologie et cette idée que ce n'est pas à l'homme de dominer quoi que ce soit. Et pourtant, ça, c'était le plan de Dieu au début, que les hommes puissent fonctionner en vice-régent pour diriger cette création que Dieu avait établie. Et vous connaissez l'histoire biblique, c'est-à-dire l'homme a chuté dans la désobéissance à la volonté de Dieu. Et par conséquent, le péché est entré dans le monde. Il y a eu condamnation, toutes sortes de répercussions sur les gens de la planète, de toute la race humaine. Et le plan de Dieu, par conséquent, c'est de rétablir et même d'améliorer la situation originelle. quand vous regardez dans les Hébreux au chapitre 2, vous voyez au verset 6, au sujet de Jésus-Christ, que là, il y a une citation du psaume 8. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, Hébreux 2, 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Et cela nous pose problème parce que nous aimerions bien voir que tout est soumis à Jésus-Christ. Mais le jour va venir où ce sera le cas. Je pense à ce texte dans l'Apocalypse au chapitre 5, verset 10, où on voit que les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau et on dit, et ils sont accompagnés d'un cantique nouveau, et on proclame cette vérité au verset 10, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » À remarquer le temps présent et aussi le temps futur. Alors, ce qu'on propose de faire ce soir, c'est de constater que depuis le premier siècle de l'ère chrétienne, la signification des prophéties et de l'Ancien Testament et du Nouveau sur le retour de Jésus-Christ, ainsi que l'intervention divine pour juger les hommes et achever le salut des siens, ça provoque questionnement et controverse dans le monde et surtout parmi les chrétiens. J'ai vu ce matin, après le culte, plusieurs éditions de la revue Promesses. Et j'ai eu le temps de regarder quelques-uns des articles qui présentent de points de vue divers sur cette problématique, sur cette question. Et je suis convaincu que parmi nous, ce soir, il y aura des points de vue différents. Alors, comment comprendre ces différentes prophéties? Les différentes confessions, nous sommes, je suppose, principalement parmi nous ce soir, des gens issus des assemblées de frères. Il y a aussi des protestants, des catholiques, des sectes pseudo-chrétiennes de tous bords qui ont tous leur point de vue différent sur cette révélation que Christ va revenir. Alors, la question principale à laquelle on veut s'adresser ce soir, c'est quelles sont les conséquences de la position que l'on veut prendre par rapport au retour de Christ et à la finalité du plan de Dieu pour cette terre, et pour cet univers et pour son peuple. Il est vrai, si vous connaissez le Seigneur depuis un certain temps, vous savez que les chrétiens issus de la Réforme qui défendent une position conservatrice par rapport à l'inhérence des Écritures peuvent passer beaucoup de temps à discuter des prophéties bibliques. Quand le Seigneur va-t-il revenir? Y aura-t-il un millénaire? Comment se concrétisera le règne de Christ? Le ciel, l'enfer, l'enlèvement de l'Église? Ce sont des questions qui nous préoccupent et on aime bien en discuter. Ce que l'on oublie parfois, c'est que la position que l'on prend par rapport à ces questions prophétiques a un lien direct avec toutes les autres doctrines et toutes ces autres convictions. Et c'est ce que j'aimerais souligner ce soir, c'est que notre position sur les prophéties n'est pas simplement un genre de bandeau ou d'ornement qu'on porte pour afficher sa position eschatologique, mais c'est plutôt quelque chose d'organique. Ce que nous croyons sur le retour de Jésus a à faire avec ce que nous croyons sur Dieu, sur son Fils, sur son Esprit, le rôle de l'Église et beaucoup d'autres choses. Ça, ce sera la fin de la présentation de ce soir. Donc, je vous lance quelques pistes de réflexion en commençant par cette constatation que le thème du règne de Dieu est, on peut dire, le fil rouge qui nous conduit à travers toutes les Écritures. Le règne de Dieu, qu'est-ce que c'est que cela? Les opinions sont diverses. Je me permets de vous citer quelques exemples simplement pour essayer de nous situer et de nous donner une certaine perspective sur la mentalité de notre époque par rapport au royaume de Dieu et par rapport au règne de Dieu. Je cite par exemple un livre qui est très connu sur la mission en Europe, un livre qui s'appelle Operation World. Jusqu'ici, l'unité a été un grand défi au Luxembourg. C'est un extrait d'un article sur le Luxembourg. Alors qu'il existe encore des obstacles à une réelle unité spirituelle, à la différence du genre superficiel œcuménique, on connaît un progrès authentique au fur et à mesure que les églises commencent à faire confiance l'une à l'autre en priant et en adorant occasionnellement ensemble. Et je souligne un grand potentiel pour le royaume en résulte. Prions pour la guérison des blessures du passé et pour le rétablissement des rapports. Donc il y a des idées sous-jacentes, des a priori, par rapport à l'emploi de cette locution « le royaume de Dieu ». Ou bien, une citation de Brian McLaren, je ne sais pas si vous connaissez cet homme, qui donc est un des fondateurs d'un mouvement qui ne veut pas être vu comme un mouvement, qui est quand même un mouvement de l'Église émergente en Occident. Il dit, voyez-vous pourquoi des mots comme post-moderne, post-libéral, post-conservateur commencent à apparaître? Pourquoi on parle autant de l'au-delà d'eux ces derniers temps? Aller plus haut et plus loin est, je le crois, la voie de Jésus qui est la voie de l'amour et de la compréhension. C'est ce que je crois que Jésus signifie par le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu pour Brian McLaren, selon cette citation, c'est la voie de l'amour et de la compréhension. Une réalité que nous avons faite émerger au travers des siècles, qui est plus grande que celle que l'on désigne habituellement par la chrétienté. Donc, le royaume de Dieu, ça dépasse la chrétienté, et c'est la voie de l'amour et de la compréhension. Ou bien, l'Alliance évangélique mondiale, qui dit ceci. L'AEM a pour but d'encourager l'unité des chrétiens évangéliques et leur donne une identité, une représentation mondiale. Elle désire se laisser conduire par le Saint-Esprit afin de travailler au progrès du royaume de Dieu en proclamant l'Évangile à toutes les nations et en invitant chacun à transformer la société de l'intérieur par le Christ. C'est moi qui souligne chaque fois. Dans cette perspective, dit l'Alliance évangélique mondiale, l'Alliance entend permettre aux chrétiens, où qu'ils soient, de devenir une force de renouvellement et de transformation des familles, des cités et des nations, afin de faire progresser la droiture et la justice, régresser la pauvreté, mieux partager les ressources et ainsi satisfaire aux besoins de chaque être humain. Ou bien, vous savez, on chante la doctrine et nous essayons d'encourager les chrétiens au Luxembourg à chanter la vérité. En général, les chrétiens rouspètent lorsqu'on prêche les mensonges, mais nous devons être tout aussi pointilleux et soigneux pour chanter la vérité, éviter de chanter ce qui est faux, parce que ce que nous chantons, nous avons tendance à le croire. Je me rends compte que c'est vrai dans ma vie. Donc, je pourrais prendre beaucoup de citations du monde anglophone. J'ai pris la liberté de prendre quelques exemples de « J'aime l'Éternel 1 ». Il paraît qu'on n'emploie plus beaucoup « J'aime l'Éternel 1 », mais c'est plutôt le deuxième, troisième volume. En tout cas, il y a par exemple les paroles de ce chant. Le royaume de Dieu en Jésus. Nous voyons la beauté du royaume de Dieu, l'amour du Père, la lumière, la puissance de Dieu. En Jésus, nous vivons pleinement le royaume de Dieu. C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. C'est tiré évidemment de ce texte dans les Romains. Viens, Esprit, remplis nos cœurs de la vie du Seigneur, le royaume de Dieu. C'est le règne de Jésus-Christ, règne d'amour, règne de paix, règne de joie par le Saint-Esprit. Viens, Esprit, règne en nos cœurs. Viens et règne, Seigneur, le royaume de Dieu est parmi nous. Et puis, Linda McGowan fait un petit commentaire en disant « Jésus nous a parlé plusieurs fois du royaume de Dieu et tout au long du Nouveau Testament, il nous est décrit comme étant un monde spirituel qui se manifeste au milieu des ténèbres par des signes visibles et invisibles de la puissance de Dieu. Dieu désire que nous soyons impliqués dans l'implantation de son royaume, nos armes principales étant la prière et l'intercession. » Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce que le règne de Dieu? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Il y a toutes sortes d'idées qui circulent. Comment peut-on voir plus clair? Alors, mon but ce soir se divise en cinq parties. Tout d'abord, nous tenterons une définition de notre vocabulaire, nous basant sur la parole de Dieu. Ensuite, nous verrons un aspect éternel du royaume de Dieu, puisque la Bible parle de ce royaume, de ce règne, comme quelque chose qui existe depuis tous les temps, depuis l'éternité, et ne s'arrêtera jamais. Et pourtant, dans un troisième temps, nous verrons qu'il y a aussi des aspects temporels du règne de Dieu. Et nous allons essayer d'évoquer comment cela se concrétise dans la parole du Seigneur. Ensuite, une quatrième partie, le royaume dans la théologie chrétienne. Et là, ça vaudrait la peine de prendre 2-3 heures pour voir un peu comment la notion du règne de Dieu, du royaume de Dieu, s'est développée au fil du temps, ce qui nous aiderait plutôt à mieux comprendre notre ère. On va vraiment essayer d'aller très vite et vous donner des pistes de réflexion et de lecture. Et puis, pour terminer, plusieurs diapositives sur la pertinence de ce thème. Je serais tenté de sauter directement à la cinquième partie, évidemment, puisque vous êtes venus surtout pour savoir à quoi ça sert. Mais nous ne pouvons pas vraiment parler de la cinquième partie, à moins d'abord de poser un fondement. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais que vous regardiez de près ces deux images. Vous allez certainement reconnaître l'image de Louis XIV de France et peut-être un visage moins connu de Georg von Habsbourg. Quelle est la différence entre ces deux rois? Dites-moi. Oh, il y a une différence d'époque, oui, ça c'est sûr. Ah oui, les vêtements, oui, oui, ça c'est sûr. Merci, je voudrais en aucun cas être habillé comme Louis XIV. Mais il était très fier de ses jambes. Hein. C'était un roi qui savait danser, et je pense que le peintre, il a fallu vraiment que les jambes soient comme elles étaient. Mais vous parlez là des choses superficielles. Vous connaissez Georg von Habsburg? Non, non. Bon, la différence essentielle, c'est que le roi Louis XIV était un roi qui exerçait des pouvoirs royaux en France. Georg von Habsburg fait partie d'une famille royale, mais il n'est roi nulle part. Il détient un titre, il pourrait être le roi de l'Empire autrichien, hongrois, etc. Mais le fait, c'est que son papa, qui maintenant, je pense, il est décédé, il était membre du Parlement européen, il est décédé, et il a décidé, donc, je pense que c'était après la Première Guerre, de lâcher tout droit d'exercer son pouvoir royal. Donc, à gauche, vous avez un roi véritable, et à droite, vous avez un faux. Il a le droit, mais il ne règne pas. Et je pense que là, ça devrait nous faire poser la question, qu'est-ce qu'un royaume? En fait, il y a dans la Bible, lorsqu'il est question du royaume de Dieu, au moins 3 éléments essentiels. D'abord, il faut qu'il y ait un roi qui règne. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un peuple que ce roi peut mener dans les affaires de tous les jours. Ensuite, il faut que cette puissance royale se manifeste concrètement, visiblement. Si quelqu'un dit « je suis roi et j'ai mon peuple, mais je n'exerce aucun de mes droits », ce n'est pas un roi. C'est quelqu'un qui a un diplôme, qui peut pendre au mur, dire « je suis membre de la famille royale telle et telle », mais ce n'est pas un roi. Et qu'il faut réunir les 3 éléments. Et cette puissance royale va s'exercer quelque part, ou bien dans un domaine, et surtout dans un pays particulier. Et lorsque nous regardons de plus près la parole de Dieu, nous constatons que cette doctrine royale du royaume de Dieu nourrit tous les autres enseignements de la Bible. La doctrine, l'enseignement, la vérité du règne de Dieu, du royaume de Dieu, est le cœur battant de tout le récit biblique. Enlever cette idée d'un royaume qui a un roi réel, qui exerce son pouvoir visiblement, réellement, dans un domaine visible, vous enlevez ça de la Bible, ça tombe en miettes. parce que le récit biblique trace l'histoire du rétablissement du règne de Dieu dans l'univers entier par le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Et en faisant cela, il prend son peuple, et on peut dire ses peuples au pluriel, dans sa victoire. Donc ce n'est pas un thème accessoire. Soulignons l'aspect éternel de ce thème. Car nous voyons dans la parole de Dieu que notre Dieu règne toujours et à jamais, dans les cieux et sur l'univers qu'il créa. Je me permets de souligner au moins quatre textes. D'abord, dans le psaume 22, verset 28, nous lisons que toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Donc, un verbe au futur. Toutes les familles des nations se prosterneront. Le psalmiste regarde vers l'avenir et il voit que toutes les nations vont se prosterner devant Dieu. Et pourquoi ? Parce que déjà, Dieu règne dans son univers. Ou dans le psaume 45, verset 7, le psalmiste dit « Ton trône, ô Dieu, est à toujours le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Aussi, dans le psaume 145, « Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. » Et c'est pourquoi Nebuchadnezzar, à la fin de ces longues années où il s'était transformé par un jugement venant de Dieu en un animal, il a pu dire à la fin de sa souffrance, « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. » Et sa domination durera jusqu'à la fin. Je soupçonne que nous verrons Nebuchadnezzar au ciel. Il y a de fortes raisons de croire que c'était un homme converti par la grâce de Dieu. Et en disant cela, nous devons maintenir dans notre entendement quelques distinctions. Parce que si, d'une part, le royaume de Dieu existe éternellement, on peut aussi dire, selon Daniel 2 et d'autres passages, que le royaume de Dieu va être instauré dans le temps. Vous connaissez cette histoire, cette vision en Daniel 2, où à la fin de l'explication, où, on voit cette rocher, hein, ce rocher qui détruit tous les empires, qui persécute le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et cette pierre, cette grande pierre, devient une montagne qui remplit la terre entière. Donc là, le royaume de Dieu est instauré à un moment donné. Alors qu'auparavant, le royaume de Dieu ne se manifestait pas de la même façon. Donc, d'une part, le règne de Dieu est éternel. D'autre part, il s'instaure à un moment précis. D'une part, le règne de Dieu, le royaume de Dieu est universel, partout dans son univers qu'il créa. Et pourtant, Ésaïe 24 parle aussi d'un royaume qui est localisé et qui prend comme capitale la ville de Jérusalem. Le règne de Dieu et parfois sans représentant humain. Il existe partout sans que nous voyions un roi en chair. Et pourtant, dans le psaume 2, le roi que l'Éternel va établir à Jérusalem, ce sera un vrai homme. Donc Dieu va se faire représenter par un roi humain. On peut regarder le royaume de Dieu comme quelque chose d'inconditionnel. Dieu règne toujours. Et dans le psaume 89, qui répète l'alliance que Dieu traita avec David, on voit que ce règne est basé sur une alliance qu'il traita avec un roi juif. Donc, on est un peu entre ces deux chaises. On ressent cette tension parce que, d'une part, on veut dire que Dieu règne toujours, et c'est vrai. Pourtant, on attend quelque chose qui va venir. Il y a déjà et pas encore. Et en disant cela, je ne voudrais pas non plus m'orienter vers un préminarisme historique. On va expliquer ça dans quelques instants. Un troisième point, donc les aspects temporels du règne de Dieu. Comment l'autorité divine est-elle exercée au travers d'un représentant humain? Je schématise brièvement. On a la réalité du règne éternel de Dieu sur toute chose, donc l'aspect universel, intemporel, qui dépasse le temps. Et en bas de votre petit schéma, vous avez une ligne qui a un début, une fin, qui représente le règne de Dieu dans le temps. Et lorsque nous lisons la Bible, nous constatons que cette notion du règne de Dieu commence surtout par le choix du peuple d'Israël. Dans Genèse 12, on voit que Dieu promet à Abraham qu'il est choisi pour être une bénédiction aux nations. Et le pays promis est donné en héritage à sa descendance. Ensuite, vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël. Abraham voyage donc de Ur des Chaldées. Il se transporte vers le pays promis, il passe du temps, il va en Égypte, puis il revient, puis il a sa descendance, la surprise générale, Sarah enfante Isaac, et puis il y a toute la descendance d'Isaac. Vous avez l'histoire sur les 12 tribus qui voyagent de nouveau vers Égypte et deviennent une grande nation et partent de l'Égypte pour passer à la conquête du pays de Canaan. Et avant de conquérir le pays de Canaan, Dieu fait de ce peuple, probablement à peu près 2 millions de Juifs, une nation qui est soudée sous la loi de Moïse. Donc ceci est une alliance conditionnelle, ce que nous appelons la Torah, la loi mosaïque, qui devient la constitution, d'une théocratie. Nous n'avons pas de théocratie en Europe à l'heure actuelle. C'est peut-être une bonne chose, mais on attend une théocratie. Dans le temps, lorsque Israël fut choisi pour être une nation sainte de sacrificateurs qui devait attirer les nations à leur Dieu, à Jérusalem, il aurait dû remplir la fonction d'une nation de sacrificateurs. Et comme vous le savez, tout le monde a promis en bas de la montagne de Sinaï, « Oui, oui, Seigneur, on va faire ce que tu dis. » Moïse a passé encore 40 jours sur la montagne et lorsqu'il est revenu, il a vu que ce n'était pas tout à fait ça. On connaît l'histoire du peuple d'Israël et que lors du règne de David, Dieu a donné une promesse à ce roi en disant qu'un descendant de David allait prendre la place du roi universel et que la royauté de la maison davidique serait instaurée. Et non pas simplement instauré, mais il y aurait une continuité. Les rois descendus de David allaient finir par créer en quelque sorte un descendant qui allait imposer son règne sur toutes les nations. Et cette promesse est inconditionnelle. On le lit dans 2 Samuel 7 et dans le psaume 89. Donc le Seigneur Jésus-Christ vient, il accomplit cette promesse par rapport à la descendance de David, Matthieu 1, Luc, l'évangile selon Luc, on voit que Jésus est le descendant de David, à la fois par Salomon et aussi par Nathan, l'autre fils de David. Mais le règne qu'il propose au peuple d'Israël ne se concrétise pas, à la grande surprise et à la grande frustration, certainement, de certains. Et le jour de Pentecôte, le Seigneur lance quelque chose de tout à fait inattendu, c'est qu'il crée l'Église qui est faite de juifs et de païens. C'est un corps, une assemblée de peuples qui, auparavant, avait tendance à être très séparés. Et il en fait une unité. Et cette Église, en guise de garantie de l'accomplissement du plan de Dieu dans la fin des temps, l'Église reçoit l'Esprit universellement, chaque chrétien a l'esprit en lui, sinon on n'est pas chrétien, Romains 8 l'affirme. Il est loin de l'esprit, tout chrétien est loin du Saint-Esprit. L'Église devient citoyenne du royaume à venir, Colossiens nous le confirme au verset 13, que nous avons été transférés du royaume des ténèbres, le royaume de Satan, dans le royaume de lumière, qui est le royaume où Christ en sera le roi. Donc déjà, on a en quelque sorte son passeport. On fait partie de ce royaume qui est à venir. Et l'Église devient un royaume de sacrificateurs. L'Apocalypse au chapitre 5 l'affirme aussi. Matthieu 13, la parabole, finalement, les sept paraboles que l'on voit en Matthieu 13, c'est sept fois cette fenêtre sur la même notion, c'est que la venue, l'instauration de ce royaume est retardée. Et l'offre que Jésus avait faite à son peuple Israël était une offre authentique, mais vu le rejet de cette offre par le peuple juif, le royaume sera retardé, et donc il est encore à attendre. Et entre-temps, Dieu va faire quelque chose, les fils du royaume vont pousser et exister dans cet interregnum, mais le royaume n'est pas encore là. L'identité des enfants de Dieu n'est pas encore révélée au monde. Si, après la réunion, vous partez à Valorbe ou à Orbe, toute autre ville en Suisse, et vous questionnez les gens dans les rues et vous leur dites « Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'être un fils du royaume qui va venir ?» On va vous regarder et dire « Comment ?» Puisque vous n'avez pas l'air, pas encore l'air d'être ressuscité, nous vieillissons, nous sommes parfois malades, nous toussons, nous souffrons de microbes, etc. Nous souffrons, donc notre identité d'enfant de Dieu n'est pas encore révélée. Et l'Église ne règne pas encore. Dans 1 Corinthiens 4, verset 8, regardez bien la traduction de Darby qui emploie le subjonctif imparfait. C'est un texte où l'apôtre Paul est un peu, il ironise, est un peu moqueur. Vous, vous régnez déjà sans nous? Ah, ben ce serait bien si nous pouvions régner avec vous. Mais pour le moment, nous, apôtres, nous subissons toutes sortes d'épreuves et de problèmes, tout comme Jésus l'avait dit dans Jean 14, 15, 16, que son Église allait subir la pression du monde. Nous ne régnons pas encore. Ça, c'est le règne de Dieu dans ce interrègne. Donc, le royaume davidique est retardé. Mais il viendra un moment, la Bible nous le confirme, où les alliances qui ont été traitées avec Abraham, Lévi, David, seront accomplies au travers des bénédictions matérielles et spirituelles du peuple d'Israël pour exercer un ministère auprès des nations sous la gouvernance de Christ, Apocalypse 20. En ayant dit cette phrase-là, je voudrais vraiment m'arrêter là et passer du temps pour déballer ce propos. On n'a pas le temps, c'est pour vous donner des pistes de réflexion. Donc je me permets de continuer. Ça résume en quelque sorte, en forme de schéma, en forme de graphique, le plan de Dieu pour réinstaurer son règne de manière visible à travers un représentant humain, la descendance d'Abraham et de David. Ça va? Je sais que je suis déjà en train de vous perdre quelques-uns. Si je regarde dans les yeux, il y en a qui commencent à avoir besoin d'oxygène. Et je comprends le problème parce que là, comme je vous ai dit au début, je vais vous inonder. Mais ce n'est pas de ma faute, on m'a demandé de faire cela. Alors, il y a encore deux points à terminer. Donc, le royaume dans la théologie chrétienne. Si vous trouvez que ce n'est pas encore très palpitant, prenez quelques minutes pour dormir. Et puis, je vais vous dire quand il faut revenir. Donc, il y a en quelque sorte, je super simplifie, trois positions qui valent la peine d'élucider. Le préminarisme, qui en général dira que les prophéties bibliques par rapport à ce royaume de Dieu qui va venir un jour sont littéralement vraies. C'est-à-dire, il y aura vraiment un descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, à travers David, qui va venir établir son royaume sur cette terre. C'est vrai. Ça va se concrétiser comme ça. Le préminarisme veut dire que cette période du royaume visible aura une première étape qui durera 1000 ans, et puisque ce royaume ne sera jamais anéanti par qui que ce soit, ce royaume va se prolonger dans l'éternité. Et Christ va revenir sur la terre avant le début de cette période de 1000 ans. Pré-millénarisme, le retour de Christ, se situe avant le début du millénium, qui continue donc dans l'éternité. Et il y en a d'autres qui sont amillénaristes, c'est-à-dire Les prophéties sont vraies, mais ne sont pas à prendre au mot. C'est-à-dire, il faut les comprendre pas, non pas littéralement, mais de façon allégorique ou symbolique. Et il y a plusieurs sortes d'amillénaristes, mais en général, les frères et sœurs en Christ qui croient à l'inhérence des Écritures, tout en étant amillénaristes, voient le Seigneur Jésus comme étant l'accomplissement de toutes les promesses faites à Israël. Il est le vrai Israël. Et lorsque l'Église est identifiée à Israël, d'une manière symbolique, toutes les promesses faites à Israël sont accomplies en lui, et donc nous partageons les bienfaits de cet accomplissement. Mais pourquoi amillénarisme? C'est parce que, selon l'amillénarisme, le millénaire, c'est déjà maintenant. Il ne s'agit pas de 1000 ans littéraux, mais d'une longue période où le règne de Dieu se fait au ciel et aussi dans le cœur des chrétiens. Donc c'est plutôt platonique, si vous voulez. Il y a un monde insensible caché de nos yeux, et puis il y a le monde sensible, et le règne de Dieu, ça se fait dans ce monde qui est très loin de nous. Et puis, il y a ce qu'on peut qualifier de position libérale, c'est-à-dire les prophéties sont à prendre au mot, mais elles sont fausses. Regardez bien, puisqu'il y a beaucoup de théologiens libéraux qui comprennent très bien la Bible lorsqu'ils la lisent, et les textes sont assez directs, limpides. La Bible prophétise le retour d'un descendant de David qui régnera sur toute la terre. Et il y a beaucoup de libéraux qui disent « Oui, la Bible le dit, mais je ne crois pas ça. » Donc les prophéties sont à prendre au mot, mais elles sont fausses. Peut-être qu'il y a d'autres positions à prendre, mais en voici trois qui valent la peine d'être comprises. Pour tracer très brièvement le développement de ces différentes positions, il faut se souvenir du fait que le pré-millénarisme date du 1er, 2e siècle après Christ. Donc ce n'est pas une nouvelle invention, ce n'est pas M. Darby qui a inventé ça. Les pré-millénaristes datent, vous voyez, de la deuxième génération des chrétiens. Enfin, moi, je pense qu'on peut même dire que l'apôtre Paul était pré-millénariste et Jean l'apôtre aussi. Vous allez deviner que je suis plutôt pré-millénariste. On n'a pas le temps de regarder les citations de Papias, d'Irénée, Justin Martyr et Tertullien. Je vous ai donné un exemple de ces citations dans vos notes. Je vous invite à lire ça pour vous-même ce soir avant de coucher, lorsque tout est encore frais dans votre mémoire. Ce sont des citations que l'on peut comprendre. Ça ne dépasse pas le commun des mortels. Mais lorsque nous retrouvons au milieu du 3e siècle après Christ, on voit que la façon d'interpréter la Bible qui avait été adoptée par les Juifs, qui, eux, avaient adopté des façons grecques, ont été adoptées par les chrétiens. On voit l'allégorie qui, sournoisement, et même ouvertement s'infiltre dans la façon de lire les Écritures. Origène, c'est un nom qu'il faut retenir, et aussi, bien entendu, Augustin, qui est donc l'un des premiers grands théologiens de l'Église catholique. Donc, je vais sauter ces citations. Je vous demande gentiment de les consulter ce soir. Et tout cela nous mène à la position catholique du Moyen-Âge, entre le 5e et 16e siècle, où l'Église catholique se voit comme le royaume de Dieu qui œuvre en vue de l'établissement de la chrétienté partout dans le monde. Et c'est pourquoi le chrétien, enfin, je veux dire le catholique romain aujourd'hui, il y a peut-être des catholiques qui sont de véritables nés de nouveau, enfin, le catholicisme comme il est défini dans leur livre est plutôt un genre de secte pseudo-chrétienne. L'idée du catholicisme romain à cette époque, qui était l'âge d'or du catholicisme, c'était de concrétiser ce royaume de Christ par la politique, par les œuvres sociales, et ainsi de suite, et surtout en couronnant des rois. À l'opposition de la position catholique, au XVIe et XVIIe siècle, vous connaissez très bien, mieux encore que moi, le développement de ce mouvement de réforme dans le protestantisme. Et lorsque vous lisez Calvin, Luther, Théodore de Bèze, d'autres protestants, vous constatez que on détient encore cette notion du royaume de Dieu comme quelque chose d'invisible. On voulait solutionner la problématique du salut et on martelait sur la grâce de Dieu, moyennant la seule foi et non pas moyennant les sacrements de l'Église. Et puis on mettait un peu de côté ces questions eschatologiques parce que la guerre était ailleurs. Et pourtant, la guerre n'était pas ailleurs. Parce que les questions sur les prophéties sont intimement liées à la question du salut. Mais ce n'était peut-être pas tout aussi évident pour eux. Beaucoup de protestants donc croyaient que les élus de l'Église composaient ce royaume spirituel entre la première et la deuxième venue de Christ et on voulait établir ce royaume visiblement. Regardez Calvin à Genève, par exemple. Et l'Église et l'État sont toujours liés. On a été très emprunt de cette notion de l'Église catholique. Vous avez aussi la position libérale qui a été lancée à l'époque des Lumières, où on veut que l'homme progresse moralement. C'est une idée qui est très enracinée dans le rationalisme, où on fait confiance à notre façon de penser, à notre raison. Et puis vous avez toutes sortes d'utopies qui naissent de ce mouvement des Lumières. On pense à Karl Marx, qui est né pas très loin de Luxembourg, dans la ville de Trèves, de Trier, Hegel, les nazis, et ainsi de suite. Un mot sur l'arminianisme, il faut avancer en galopant. L'idée essentielle de l'arminianisme, c'est que les saints règnent déjà au ciel, maintenant. Ou bien que Christ règne dans les cœurs des croyants. Ou bien que Christ règne à travers l'Église. Donc, trois types d'arminianisme. Le millénium symbolise dans la Bible ce règne qui est essentiellement invisible. Satan fut donc lié, Apocalypse 20, à la croix, enchaîné, mis dans l'abîme, c'est-à-dire il ne peut plus séduire les nations, donc il est lié, il est limité dans l'impact qu'il peut faire sur les nations. Et l'arminianisme en général insiste sur cette idée que Satan est déjà lié, il est dans l'abîme. Enfin, c'est symbolique de ces limites qui sont imposées par le Seigneur. Et on dit aussi que la première résurrection mentionnée dans Apocalypse 20 a lieu lorsqu'on naît de nouveau. Il y a deux résurrections qui sont mentionnées dans Apocalypse 20. Donc on dit que la première résurrection, c'est la nouvelle naissance, et la deuxième résurrection, c'est la résurrection du corps. Le post-millénarisme qui avance en général lorsque tout va bien dans un pays, et l'idée que le millénium peut commencer déjà maintenant et que par la prédication de l'Évangile, l'Église va instaurer une époque plus ou moins longue de justice, après quoi le Seigneur Jésus va revenir. Donc, post-millénarisme veut dire qu'il y a l'instauration de ce règne, visiblement, après quoi Christ va revenir. À la différence du pré-millénarisme qui dit que Christ revient d'abord visiblement et lui, il établit ce règne. Le dispensationalisme, qui a des racines même avant Darby, est une notion qui se développe à peu près à la même époque que la théologie de l'Alliance et qui insiste sur l'accomplissement littéral des promesses faites à Israël. Je suis de tendance dispensationaliste moi-même. Et je pense que la grande idée du dispensationalisme, même si on ne veut pas, si on ne va pas toujours être d'accord sur le nombre de dispensations, il y a des dispensationalistes qui parlent de 4 ou 5 ou 6 ou 7 dispensations, mais au cœur de cette notion, c'est l'idée que l'Église et le peuple d'Israël, c'est des économies distinctes dans le plan de Dieu. Deux phases donc dans dispensationalisme, dans le retour de Jésus. Un retour, si vous voulez, pour l'Église, que l'on appelle en général l'enlèvement, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru en Jésus à partir du jour de Pentecôte jusqu'à son retour. Ceux-là forment l'Église de Christ et ils seront ressuscités en un clin d'œil lorsque Christ reviendra dans les nuées et ils disparaissent de ce monde, après quoi viendra une période de jugement où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël est préparé en vue de ce royaume qui va venir. Après quoi, Christ reviendra avec les saints, avec l'Église, pour régner. Donc, ce deuxième retour, si on veut, dans la gloire, ce sera pour instaurer le millénium. Et puis, encore une chose, et je ne vais pas éterniser là-dessus, mais il y a beaucoup d'évangéliques qui passent du temps dans la lecture de George Eldon Ladd, qui veut promouvoir un préminarisme historique, c'est-à-dire, déjà dans l'Église, vous avez un accomplissement, mais sans achèvement. Il est très influencé par les rationalistes et par des théologiens néorthodoxes suisses comme Karl Barth, aussi par les Allemands, Friedrich Schleiermacher, Immanuel Kant, etc. Donc, c'est un homme qui rejette l'inspiration verbale des Écritures. Bon, je n'ai pas le temps maintenant de parler en détail de George Eldon Ladd. Si après vous avez quelques questions, on peut en parler. Donc, pour arriver donc au but de notre discours ce soir, c'est que, et j'aimerais souligner cette diapositive, si vous oubliez le reste, essayez de retenir ceci. C'est que la position que l'on prend par rapport au royaume de Dieu va inévitablement, si vous êtes cohérent, influencer vos réponses aux questions suivantes. D'abord, en ce qui concerne la personne de Dieu lui-même, si Dieu est réellement Dieu, le Dieu d'Israël, comme il est souvent appelé dans l'Ancien Testament et aussi au Nouveau, il doit être fidèle à ses promesses. Mais si le sens de ses promesses change avec le temps, est-ce qu'on peut encore avoir confiance en lui ? Je suis tenté de proposer une illustration. Vous dites à votre garçon, la semaine prochaine, on va aller pêcher dans la rivière, on va passer du temps ensemble. Ah, voilà, on va sortir avec papa. Et puis le jour, le grand jour, samedi, arrive, et puis le garçon, il est prêt, il a ses bottes, il est prêt à partir. Il fait beau, papa, on part ? Oui, il faut que tu comprennes que quand je t'ai donné cette promesse, je voulais simplement te faire comprendre que je t'aime bien. Non, il y a un problème d'intégrité là. Si Dieu promet quelque chose, et qu'il soit tellement explicite à travers des siècles, des siècles, des siècles, parmi tous ces prophètes, on voit que les mêmes promesses reviennent. Est-ce qu'on peut encore croire en lui s'il change de définition ? Par rapport à la Bible, si elle est véritablement la parole de Dieu, mais que les prophéties soient susceptibles d'interprétations multiples, c'est-à-dire à plusieurs couches, il y a un sens littéral, puis un sens spirituel, un sens anagogique, analogique, et ainsi de suite. Alors, comment peut-on interpréter la Bible de façon cohérente ? Comment peut-on être sûr d'avoir bien compris ce que la Bible dit ? Au sujet de Jésus, la Bible affirme dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, que Jésus fut un homme juif en tant que Messie d'Israël. Il était le fils de David. Il l'est encore. Savez-vous, lorsque le Seigneur Jésus prend sa place au ciel à la droite du Père, il intercède pour nous, il remplit la fonction de souverain sacrificateur, il détient encore dans son corps ressuscité un caractère juif. Il sera toujours Dieu, la deuxième personne de la Trinité, une personne jointe à une nature humaine qui est empreinte de cette ethnicité. Il sera toujours juif. Alors, si on dit que Jésus règne déjà sur le trône de David au ciel, à quoi bon d'être juif ? On n'a pas besoin de remplir ces critères. Quel est cet aspect judaïsant dans la question ? Ça mérite d'être expliquer un peu plus en détail. Mais comme j'ai dit, je vous lance des questions par rapport à ce que vous croyez sur l'Esprit de Dieu. Si l'on croit que le royaume est déjà présent maintenant, est-ce que ce ne serait pas logique de croire à la continuité de tous les dons miraculeux de l'Esprit qui sont les signes du royaume ? Si le royaume est là, prouvons aux gens qu'il est déjà là. C'était l'un des buts du ministère de Jésus et des apôtres par rapport à l'histoire. Quel est le but de Dieu? Le but ultime? Qu'est-ce qu'il veut atteindre dans l'histoire? Est-ce qu'il cherche surtout la rédemption de l'âme avant toute autre chose? Ou est-ce qu'il recherche sa propre gloire? Le plan de Dieu, frères et sœurs, ne tourne pas autour de nous. Le plan de Dieu tourne autour de Dieu. Qui il est? Comment il va être glorifié dans le temps? Et la rédemption des siens va être un outil pour atteindre cette fin, cette finalité. Mais aussi la condamnation des perdus et le jugement qui tombera sur les anges. Tout cela fait partie donc du plan de Dieu pour son univers. Par rapport au salut, les Juifs peuvent-ils avoir un rapport avec le Dieu d'Israël sans passer par la foi en Jésus-Christ? Il y a des évangéliques qui croient qu'il y a deux alliances, l'alliance faite avec l'Église et l'alliance faite avec le peuple d'Israël. Ils peuvent être sauvés par leur propre alliance. Est-ce qu'il suffit de se soumettre à la loi de Moïse pour être sauvé? Ça, c'est une question qui est liée à votre conception des prophéties à venir. La question de la prospérité. En tant que chrétien, est-ce qu'on a le droit à une santé parfaite, à une nouvelle Mercedes tous les 3 ans? Est-ce que les promesses faites à Israël s'appliquent à l'Église? Vous connaissez ces promesses qui sont faites à Israël. Si vous êtes obéissant à ma parole, les maladies d'Égypte, vous n'avez pas besoin de les craindre. Et puis, il y a des promesses par rapport à ce royaume qui va venir, que l'âge de l'homme va être comme l'âge des arbres. Si quelqu'un meurt à l'âge de 100 ans, on va le considérer comme un petit enfant. La loi de Moïse, est-ce qu'elle est en vigueur aujourd'hui? Toute la Torah, est-ce qu'elle est en vigueur? Est-ce que nous apportons un sacrifice, un animal en sacrifice? Est-ce que nous nous prosternons devant le Seigneur dans un temple à Jérusalem? Le chrétien, il est sanctifié par l'obéissance à la loi de Moïse. Le pays d'Israël, j'ai retenu dans un article dans les promesses, un article intéressant de Roger Libby, un autre point de vue sur Israël, donc, où il essaye de s'adresser à quelques fausses idées sur le peuple d'Israël et les problèmes au Moyen-Orient. Fausse idée numéro 1, le printemps arabe est favorable à la paix au Moyen-Orient. Fausse idée numéro 2, Israël est responsable du terrorisme musulman. Fausses idées numéro 3, l'islam peut être modéré. Numéro 4, les juifs et les arabes pourraient cohabiter en Palestine. Voilà, votre façon de réagir à un article comme ça, en promesse, c'est intimement lié à votre conception du royaume de Dieu et comment il faut les interpréter. Quelle position les Européens à l'heure actuelle doivent-ils prendre par rapport à ces problèmes sans solution humaine au Moyen-Orient? La mission de l'Église, l'action sociale et politique, est-ce qu'elle fait partie intégrante de la mission de l'Église? Vous faites, je suppose, pour la plupart, sinon tout le monde, d'une assemblée qui veut avoir un impact ici, dans le canton de Vaud. Mais quelle est votre mission? Est-ce que c'est votre mission d'influencer la société et de faire venir, instaurer, si vous voulez, le royaume de Dieu dans ce canton? Allez-vous le faire en essayant de choisir des maires, des représentants? Je ne sais pas très bien comment la Suisse est organisée, mais j'ai entendu que vous êtes très démocratique ici. Faut-il choisir des chrétiens et donc transformer la Suisse en pays chrétien? Faut-il nourrir les pauvres? Est-ce que ça fait partie de l'évangélisation? Qu'est-ce que l'évangélisation? La réponse que vous apportez à cette question est intimement lié à votre conception du royaume de Dieu. Satan et les démons, est-ce que Satan est déjà lié ou est-ce qu'il sera lié? Est-ce qu'il rôde autour de nous ou est-ce qu'il ne rôde pas? Et les choses à venir, le trône de David, où est-il? L'Église va-t-elle passer par la tribulation, le grand jour de l'Éternel, selon Jérémie? Le millénium est-il maintenant ou bien plus tard? Ce ne sont pas des questions sans conséquences pratiques pour nous. Frères et sœurs, j'aimerais ce soir vous interpeller et vous encourager à lire à travers toute la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, en retraçant ce thème du royaume et du règne de Dieu, qui donc est le fil conducteur de toute la Bible et qui va encore plus loin que le thème de la rédemption. La rédemption, ça fait partie du plan de Dieu pour la race humaine. Mais le plan de Dieu dépasse même la rédemption. Donc, je vous lance ce défi en vous encourageant à lire, parce que je vois que de plus en plus d'évangéliques assistent au culte le dimanche, mais ne lisent plus leur Bible. Nous avons besoin de revenir, de prendre des notes, de réfléchir et d'être comme des Bériens qui recherchent à comprendre mieux la parole de Dieu, surtout autour de ces grands thèmes qui vont façonner et aiguiller notre vie dans la société et vont nous aider à avoir une conception très ciblée de la mission de l'Église, ce qui est de faire des disciples après avoir évangélisé les gens et de faire en sorte que les églises puissent se multiplier dans nos pays et porter un flambeau. Nous ne pourrons pas transformer la société, et ce n'est même pas notre mission, que d'établir des pays chrétiens, mais d'être en quelque sorte une contre-culture dans le monde, tout en n'étant pas du monde. Et si vous croyez que c'est facile, on va avoir une petite conversation après. Parlez avec vos anciens, avec les frères et sœurs. Prions, nous, les uns pour les autres, afin que nous puissions vraiment rester fidèles à ce but que le Seigneur a établi pour son Église. Voilà, j'ai dépassé mon temps. Je savais très bien que ça allait se passer comme ça. Peut-être que je pourrais simplement proposer que si vous souhaitez parler un peu plus longuement, vous avez des questions peut-être précises par rapport à ce qu'on a présenté, sentez-vous libre de rester ici. De toute façon, on ne va pas rentrer au Luxembourg ce soir, donc on a du temps pour nous entretenir avec celles et ceux qui voudraient en parler encore davantage. Merci de votre attention ce soir, votre grande patience, et que le Seigneur vous bénisse dans cette partie de l'Europe qui est un continent en changement radical et rapide. Et il est essentiel que nous sachions pourquoi nous sommes là et que nous soyons fidèles à la mission que Dieu nous donne. Que Dieu vous aide à faire cela ici dans cette partie de l'Europe. Priez aussi pour nous, que le Seigneur nous aide à faire de même dans les pays du Nord. Merci.